Croisé. Chers auditeurs de Forum Opéra et Cobuz, bonjour. Je suis ravi de vous retrouver pour cette nouvelle saison de Croisé, d'autant que la rentrée lyrique s'annonce particulièrement riche à la scène, bien sûr, avec le spectacle inaugural de L'Air Joël à l'Opéra de Paris, la très rare et injustement négligée Mireille de Gounod, mais aussi au disque avec quelques parutions très attendues, parmi lesquelles Tragédienne 2, le nouveau récital de Véronique Gens, qui, de Rameau à Berlioz et toujours accompagné par Christophe Rousset et ses talents lyriques, complète et prolonge le premier volume, Tragédienne, qui était une galerie des héroïnes les plus passionnées du baroque français, plébiscitée à sa parution en 2006. Pour cette raison, et bien d'autres encore, notamment son retour attendu, espéré sur la scène parisienne, j'ai souhaité recevoir une des, pour ne pas dire la soprano française la plus appréciée hors de nos frontières, pour retracer un parcours qui, bien que, on pourrait dire patient, se révèle surtout exemplaire. Véronique Gens, merci d'avoir accepté mon invitation.
Bonjour.
Tout commence avec Attis. Vous faites partie de cette génération bénie qui, des mains encore pionnières de ceux qui sont désormais des monuments, reçoivent tout l'héritage d'un art, d'un style, d'une manière d'être à la musique et au texte, alors perdu. Mais se mêler au baroqueux il y a 20 ans, c'était un peu comme entrer en religion, suivre des dogmes plus stricts alors qu'aujourd'hui, car tout restait à faire. Vous étiez ce qu'on appelait dans la France du grand siècle un « dessus », terme qui se révèle tout à fait approprié puisque votre Pygmalion, William Christie, se contentait d'exploiter la partie supérieure de votre registre pour mieux vous élever au rang de gardienne du temple. Avec vous, Guillemette Laurence, Agnès Mellon, Noémie Rime et quelques autres, Lully, Charpentier, Campra, Couperin, Rameau, pouvaient reposer en paix, vous maîtrisiez leur art à la perfection. Et puis arrive dès 1990 l'homme providentiel, celui qui vous ouvre la porte du temple, et Dieu sait qu'il en a les clés, parce qu'il entend autre chose dans votre voix, c'est Jean-Claude Malgoire, qui vous offre à Mozart, et plutôt vers le grave d'ailleurs. C'est une libération, une révélation surtout, l'instrument s'ouvre, respire. Vous ne délaissez pas, bien sûr, vos premières amours ni vos mentors, mais l'horizon s'élargit, notamment vers l'Italie, en compagnie de Gérard Lenne, par exemple. Et la fin des années 90 va marquer un tournant. De Mozartienne occasionnelle, comme une bouffée d'oxygène de temps à autre, vous devenez Mozartienne à part entière, de plein droit. René Jacobs vous choisit pour être sa Fior di Ligi et Claudio Abbado et Peter Brook, leur Donna Elvira, ce qui vous vaut, en 99, le titre d'artiste lyrique de l'année aux Victoires de la Musique. La carrière qui s'offre à vous est désormais internationale et vous prenez conscience, peut-être dès 97, durant les sessions d'enregistrement des Leçons de Ténèbres de Couperin sous la direction de Christophe Rousset. C'est un disque qui paraît, ironie du sort, en 2000, comme un adieu à vos racines. Ce que ce dogme que j'évoquais tout à l'heure, que ce dogme contraint votre voix et qu'il va falloir renoncer à ce répertoire si vous voulez déployer pleinement vos ailes. C'est à partir de ce moment-là, peu ou prou, que la France se met progressivement à vous bouder. Pas en concert, mais à la scène, parce qu'on aime bien mettre les artistes dans des cases. On tolérait que vous chantiez Mozart, mais de là à abandonner, trahir même pour certains la cause. Et puis, qui allait garder le temple? Alors vous chantez ailleurs. Mozart, beaucoup, Handel, Mélisande aussi, en Allemagne. Une relation suivie se forge avec le Liceo de Barcelone, où vous venez de chanter Eva des Maîtres Chanteurs, votre premier Wagner. Mais en 2006, coup de théâtre, vous rentrez, si j'ose dire, au bercail, avec le premier volume de Tragédienne, où vous retrouvez Christophe Rousset, pour mieux boucler la boucle, me disiez-vous à l'époque. Et on se rend bien vite compte que le sérail baroque n'attendait que votre retour. Récital Lully et Rameau pour le 20e anniversaire du Centre de musique baroque de Versailles, Alceste de Lully avec Malgoire et Phébé dans Castor et Pollux à Amsterdam, comme une reconquête. Mais aussi une conquête, celle de Glouc, et une promesse tenue, puisque vous serez successivement Iphigénie, en Olyde à Bruxelles en décembre prochain, en Tauride à Vienne en mars 2010, et enfin Alceste au Festival d'Aix-en-Provence, après votre retour au Théâtre des Champs-Élysées, dans des productions scéniques de la Callisto de Cavalli et de Don Giovanni de Mozart. L'avenir, en somme, vous appartient, mais j'aime à remuer le passé, vous venez de vous en rendre compte. Nous allons donc à nouveau remonter le temps, et ce jusqu'aux origines, c'est-à-dire la classe de William Christie. Qu'est-ce qui vous y a attiré ?
J'étais complètement vierge en la matière, en musique baroque. Pour moi, ça ne voulait pas dire grand-chose, ça ne voulait même rien dire du tout. J'avoue que je ne connaissais pas du tout cette musique. Il se trouve que mon professeur de chant au conservatoire d'Orléans, qui était une amie de William Christie, c'était Jacqueline Bonardeau, m'avait dit « Oui, je pense que tu as une voix qui peut être intéressante pour la musique baroque. Tu devrais rencontrer un ami à moi qui s'appelle William Christie. » Bon, je ne connaissais pas du tout William Christie. Encore une fois, pas du tout la musique baroque. J'ai dit « Mais pourquoi pas ? Allons-y. » Et j'ai rencontré William Christie. J'ai passé le concours pour rentrer dans sa classe. Et voilà, et me voilà partie avec le premier cours. Je me souviendrai toute ma vie. Il nous a donné 5 ou 6 partitions. Attis de Lully, Phébé de Charpentier, Jephté. Enfin, voilà, 5 ou 6 monstres comme ça, en nous disant « Voilà, vous travaillez ça pour la semaine prochaine. » Oh, la panique. En plus, évidemment, tout était écrit en clé du de première. Et c'était du charabia pour moi. Enfin, ça a été un peu dur de m'y mettre. Je pense que William s'en souvient aussi. Mais voilà, et j'ai très vite accroché dans cette musique. Et encore une fois, c'était la première fois que j'entendais cette musique, que je la pratiquais. Et j'étais prête à tout recevoir comme une éponge. Et j'avais aucun a priori. J'étais ravie qu'on s'occupe de moi, qu'on m'apprenne des choses. J'étais au Conservatoire de Paris, bien entourée, bien encadrée. Et voilà, et j'ai tout appris comme une éponge. Et c'est vrai que j'ai eu beaucoup de chance, puisque c'est la même année ou l'année scolaire juste après qu'il a créé cet Attis de Lully dont vous avez parlé. C'était en 86-87, et voilà, j'ai été engagée dans les chœurs, et la suite vous la connaissez déjà.
Et justement, à propos d'Attis, vous évoquiez, non sans nostalgie, dans Diapason, à l'occasion des 20 ans, une atmosphère de ruche fraternelle. Comment est-ce que s'est passé le passage du statut de petite bergère, de pimpant rossignol, à celui d'héroïne tragique, puisque vous avez vite été appelée à incarner Phébé, notamment dans Castor et Pollux?
C'est vrai que c'était très confortable d'être au milieu des chœurs, d'avoir de temps en temps une petite responsabilité. C'était très convivial, on s'amusait beaucoup. C'était toujours les mêmes choristes, toujours les mêmes chanteurs, les Arts Florissants, c'était toujours le même orchestre. Donc vraiment, on se connaissait bien, on a fait beaucoup, beaucoup de tournées. Et c'est vraiment un très, très bon souvenir pour moi. Toutes ces années de tournée avec les Arts Flo, c'était très agréable. Bon, c'est vrai que quand les responsabilités sont devenues un petit peu plus lourdes, un petit peu plus exigeantes, disons, c'était fini de faire la fête avec les copains toute la soirée. Si je devais chanter le lendemain, enfin voilà, j'ai très vite compris qu'on pouvait pas faire la fête et chanter correctement quand on avait des choses importantes à chanter. Donc c'est vrai que ça s'est fait un petit peu douloureusement, si je puis dire. J'ai vraiment réalisé très vite qu'il fallait arrêter de faire un peu n'importe quoi, et quand on doit chanter, il faut s'imposer beaucoup de choses. Bon, mais chaque chanteur, je pense, met du temps à trouver son petit rituel, ses petites habitudes avant un soir important. Mais tous vous diront la même chose, que quand on doit chanter le soir, on vit pas normalement la journée d'avant et les jours qui sont avant aussi. Il faut prendre soin de soi, il faut être égoïste tout d'un coup, il faut oublier les autres, il faut oublier qu'on peut oui, il faut faire attention à ce qu'on mange, il faut dormir, il faut rentrer un peu en religion. Mais encore une fois, je suis pas la seule à dire ce genre de choses. Si on veut vraiment être en position de tous ces moyens vocaux, on a besoin d'un petit rituel avant les jours qui précèdent.
Et quand est-ce que vous avez commencé à vous sentir à l'étroit dans ce que j'appelais tout à l'heure le dogme? Et vous avez senti aussi que votre voix voulait vibrer là où vous deviez l'en empêcher, où on vous imposait de l'en empêcher.
Oui, oui. Et encore, William Christie ne faisait pas partie de ces gens qui vraiment demandaient des voix droites, droites, droites et sans aucun vibrato. Il aimait bien aussi que ça soit un petit peu charnu. Mais je me suis rendu compte très vite de ça, en fait. Et même quand j'étais toute jeune chanteuse aux Arts Florissants, je sentais que tous ces dessus n'étaient pas du tout agréables pour ma voix. Ça passait bien, tout le monde était content, donc je me suis dit pourquoi pas continuer. Mais c'est vrai que je me sentais un peu Oui, c'était pas ma place, quoi. Alors, vous parliez tout à l'heure des dessus, puisque ça s'appelle comme ça dans cette musique-là. Mais très vite, j'ai trouvé l'échappatoire et je suis devenue bas dessus. Donc déjà, c'était plus confortable. Et quand il y avait des duos ou des choses comme ça, j'étais toujours en dessous. Mais voilà, très vite, j'ai senti que j'avais besoin de chanter autre chose. Et heureusement, j'ai rencontré Jean-Claude Malgoire qui, lui, tout de suite, m'a fait confiance aussi dans un autre genre, mais pour proposer des choses beaucoup plus centrales et beaucoup plus larges. Parce que passer de Charpentier à Mozart, c'était un pas énorme déjà pour moi. C'est comme maintenant de passer de Mozart à Wagner, ça me paraît un pas encore plus grand. Alors, je ne sais pas ce qui va se passer après, mais il y a un trou énorme entre la musique baroque française et Mozart. C'est vraiment pas du tout le même genre la même façon de chanter, c'est pas le même répertoire, c'est pas le même genre de voix. Enfin, voilà. Donc, tout d'un coup, c'est devenu très agréable et très confortable. Et je me suis dit, mais il a raison, évidemment, il faut que j'arrête de faire les bergères et autres bas dessus, quoi. C'est où je me sentais vraiment un peu à l'étroit. Mais en même temps, c'était très difficile de laisser tout ce pan de ma vie, tous ces gens que j'aimais, tous ces gens que je connaissais, où j'avais pas du tout de soucis à me faire. De toute façon, j'avais toujours du travail. Ça a été vraiment une décision assez difficile qui s'est faite petit à petit. Bien sûr, on peut pas du jour au lendemain dire, bon, allez, terminer les Arts Florissants, terminer les Musiciens du Louvre, je ne fais que Mozart. Ça n'existe pas, bien sûr. Mais ça s'est fait lentement, mais sûrement. Et après, je pense qu'il y a eu une période on m'a prise un peu pour une ingrate. Et c'est vrai qu'on ne me proposait plus rien dans cette musique. Et j'étais très triste et très déçue. Mais bon, heureusement, d'autres portes sont ouvertes.
J'évoquais tout à l'heure l'enregistrement des Leçons de ténèbres de Couperin. On en écoute un extrait, la lettre tête. C'est un extrait de l'enregistrement dirigé par Christophe Rousset et paru chez Decca. Et qui était votre adieu provisoire au baroque français. Vous venez d'entendre un extrait des Leçons de ténèbres de Couperin par Véronique Jans, accompagné par Christophe Rousset à l'orgue et Emmanuel Balsa à la basse de viol. Jean-Claude Malgoire, on en a parlé, qui vous met le pied à l'étrier pour Mozart. Et justement, Mozart, plus qu'un chef en particulier, vous devez votre statut aujourd'hui de mozartienne peut-être à un rôle, celui de Donna Elvira. Est-ce que c'est vous qui êtes venu à elle ou est-ce que c'est elle qui vous a trouvé?
Je pense que c'est elle qui m'a trouvé vraiment parce que quand Jean-Claude m'a parlé de cette Donna Elvira, pour moi c'était d'abord un personnage très très étrange, très qui arrive toujours au moment où il faut pas, qu'on aime mais qu'on n'aime pas, qu'on sait pas très bien comment on doit se sentir vis-à-vis d'elle. Et je pense que vraiment c'est elle qui est venue à moi parce qu'au départ Jean-Claude m'avait parlé de Donna Anna, qui me paraissait plus dans mes cordes, puisqu'encore une fois, j'avais chanté beaucoup de musique un peu plus aiguë dans ce répertoire baroque. Mais après beaucoup de discussions avec Jean-Claude, il m'a dit « Mais je pense que vraiment, pour toi, Donna Elvira est beaucoup plus confortable. Arrête de t'embêter, comme il dit, avec son accent là et sa barbe. Et chante un peu là, voir si tu te sens bien. » Et vraiment, c'était... Tout d'un coup, c'est devenu évident que j'étais plus du tout faite pour aller là-haut et que j'étais pas assez corsée pour aller tout en bas, mais j'étais vraiment très centrale. Et Elvire est vraiment l'exemple de ce genre de voix où d'ailleurs, il y a une version pour mezzo, une version, enfin, l'air peut faire un demi-ton en dessous, un demi-ton au-dessus. Enfin, c'est vraiment quelque chose qui est tendu pour un mezzo et qui est trop grave pour un soprano. Voilà, ma voix, c'est un peu ça. C'est pas très joliment dit, mais c'est comme ça que vraiment que je la comprends, que je la sens. Et j'en suis de plus en plus convaincue. Je suis vraiment à la limite d'être un mezzo. Ce qui est tendu pour un mezzo est parfait pour moi. Voilà, je ne peux pas le dire autrement. Comme les compositeurs dans Ariane Anaxos, comme des Octavian, comme des choses comme ça. Voilà, c'est vraiment là où je me sens bien.
Une production qui a compté avec ce rôle d'Elvire, c'est celle d'Aix, oui. Avec Abado et Brooke. Qu'est-ce qu'ils vous ont appris, ces deux maîtres?
C'était une expérience incroyable. On a fait, je sais pas, quelque chose comme 70 spectacles. Enfin, c'était monstrueux, une tournée énorme. Ça a duré plus d'un an. Et là, on a retrouvé un peu cet esprit de troupe et qu'on avait aux Arflots. Enfin, c'était très agréable et j'ai des très bons souvenirs de cette tournée. Mais ce que j'ai appris avec eux, c'est d'abord une espèce de rigueur parce que chanter 70 fois la même chose avec les mêmes décors, avec le... Nous, on est, les chanteurs, on n'est pas comme les comédiens qui font une centaine de spectacles et même 200, ils en font tous les soirs. Enfin, nous, on a besoin de chanter autre chose, on a besoin de passer à autre chose pour avoir l'impression d'avancer et d'être freiné comme ça et d'être obligé, entre guillemets, de faire le même spectacle autant de fois, c'était très intéressant. Il fallait trouver d'autres choses, il fallait trouver en soi d'autres... Bon, j'avais la chance d'avoir des partenaires qui étaient très inventifs et très... puisque ça fait vraiment partie du travail de Peter Brook, l'improvisation. D'ailleurs, on a répété du mois de mai, je me souviens, on a commencé, même avril, fin avril jusqu'à juillet, jusqu'au spectacle à Aix-en-Provence. On avait le matin un petit cours de gym tous ensemble, on faisait de la gym, Peter Brook était là avec nous, même Abado venait aussi de temps en temps. Enfin, c'était très, très, très spécial, très intéressant. Alors, on passait son temps à improviser. Tout d'un coup, j'étais transformée en Don Giovanni et c'était Don Giovanni qui chantait Elvire. Ensuite, je passais à Ottavio ou bien... Et c'était très, très intéressant. Toute cette période de répétition était pour moi vraiment passionnante. Les spectacles, après, sont devenus... et d'ailleurs, c'était affreux. On avait tous envie de chanter sur scène. On n'en pouvait plus de répéter, d'improviser. On n'en pouvait plus. On ne comprenait pas où il voulait en venir. Et c'est lui qui on avait des chevaux là, dans leur box, là, juste avant de... On n'en pouvait plus, quoi. Il fallait vraiment qu'on aille sur scène et qu'on fasse les spectacles... Et alors là, ça s'est devenu, il y a des moments où c'était un peu, à mon avis, de l'improvisation un peu à l'excès. Quoi. Ça partait un peu dans tous les sens. Mais Peter Brook aime beaucoup ça et il trouve ça très intéressant. Et une chose qu'il me disait, qui m'a beaucoup, et j'y pense toujours, une chose qu'il me disait pendant les répétitions, il me disait, arrête de faire des grands gestes, t'as des grands bras. D'ailleurs, là, j'arrête pas, vous me voyez pas, mais je fais des grands gestes avec mes bras sans arrêt. Arrête de faire des grands gestes avec tes bras, avec ta tête, avec ton corps. T'es grande, on te voit, on ne voit que toi. Et quand tu fais l'épouvantail comme ça, c'est pas possible. Imagine que tu as, comme au cinéma, une caméra juste devant ton visage. Et joue comme si tu avais seulement besoin de faire passer des choses dans cette caméra. Ça sert à rien. Et c'est vrai que j'y pense souvent quand je fais des prises de rôle ou quand je rejoue Donna Elvira. Je pense toujours à ça. J'ai appris beaucoup de choses avec lui, c'est sûr. Et évidemment, d'avoir Abado comme chef, c'était un vrai bonheur. Ça la va sans dire.
Cette production aixoise aura également révélé un chef, Daniel Harding.
Oui, oui, oui.
Et c'est sous sa direction que la production a été captée par Virgin Classics lors de sa reprise en 1999. On vous écoute dans le premier air d'Elvire, Peter Mattei et Don Giovanni et Gilles Cashmai, Leporello. C'était un extrait de Don Giovanni, interprété par Véronique Jans et le Mahler Chamber Orchestra, sous la direction de Daniel Harding, capté en live par Virgin Classics. L'avantage du soprano mozartien, vous l'avez dit, c'est d'être un peu, parfois, entre deux, et pas seulement pour les rôles créés par des castrats. Vous avez évoqué aussi votre désir de rôle comme Octavian, le compositeur. Ça va venir un jour ou... Parce que vous le dites souvent.
Mais oui, mais j'essaye de, oui, de faire passer le message. Mais bon, pour l'instant, c'est arrivé aux oreilles d'aucun directeur d'opéra. Mais je garde bon espoir et je pense que je serais très confortable si on me donnait la possibilité de chanter Strauss aussi. Vraiment, c'est quelque chose que j'ai très envie de... J'ai très envie de me frotter à la Maréchale, à des choses comme ça. Bon, c'est vrai que j'étais peut-être pas assez mûre pour le faire jusqu'à maintenant. Mais maintenant, Oui, voilà, je fais passer le message à chaque fois que j'ai l'occasion. Bon, pour l'instant, je n'ai pas eu de retour, mais on verra.
Mais quelqu'un a quand même osé vous confier Eva. Oui. C'est un peu une ouverture vers le répertoire allemand.
Ah, tout à fait. Ça, vraiment, j'ai une reconnaissance, oui, infinie pour Joan Matabosch, qui est le directeur artistique du Liceo de Barcelone. Parce que vraiment, je ne connais personne en France qui aurait osé m'offrir ce genre de rôle. Moi, qui suis connue en France, effectivement, comme vous avez dit tout à l'heure, comme la petite bergère, comme le truc de toute cette musique baroque française. Bon, c'est vrai que ça fait quand même 20 ans, un peu plus de 20 ans que je chante. Ma voix a changé, j'ai changé, ma tête a changé, tout a changé. Je ne suis plus la petite bergère baroque, qu'on se le dise. Et c'était pour moi une opportunité incroyable. Et bon, je ne vous cacherai pas que j'ai hésité, bien sûr, avant d'accepter un rôle pareil, surtout dans une maison comme le Liceo, qui est immense. C'est vraiment un très, très grand opéra. J'ai pris ça comme un challenge. Je me suis dit, et pourquoi pas? J'ai bien regardé la partition. Au début, j'ai cru que c'était une blague, mais j'ai bien regardé la partition et je me suis rendu compte que c'était ni aigu, ni grave. C'était vraiment très central. C'était parfait pour moi. À aucun moment, c'était vraiment lourd avec l'orchestre. Enfin, on n'est pas dans les Valkyries et autres Wagner qui sont un cliché pour beaucoup de gens. Je connaissais pas du tout les maîtres chanteurs, je l'avoue. Mais ça a été un travail très intéressant, un travail de longue haleine, parce que chanter Wagner du jour au lendemain comme ça, ça a été, oui, difficile. J'ai beaucoup, beaucoup travaillé. Mais ça s'est très bien passé. La production était très jolie. C'était la production de Dresde avec des grands, grands Wagneriens. J'étais très bien entourée. Très soutenu. Enfin, c'était vraiment une expérience. Oui, ma saison 2008-2009, c'était pour moi vraiment, c'était ça, quoi. C'était le clou de ma saison. Et ça s'est vraiment bien passé. On parle de faire des reprises dans des endroits très prestigieux. Donc, on va voir. Pour l'instant, rien n'est sûr. Mais oui, je pense que s'il y a un Wagner, je dois chanter, c'est Eva, c'est rien d'autre. Et j'espère pouvoir le faire encore.
Un rôle qui est vraiment à cheval entre deux tessitures et qui d'ailleurs prouve bien que vous n'êtes plus une petite bergère, c'est Vitellia,
oui,
dans La Clémence de Titus, que vous avez abordé, je crois, assez tôt avec Malgoire déjà.
Oui, oui, très vite, il m'a proposé de chanter Vitellia. Ça me paraissait complètement fou, mais encore une fois, Jean-Claude entend vraiment les choses et c'est un rôle que je chante beaucoup, beaucoup maintenant. Malheureusement, pas du tout en France, pas du tout à Paris, mais beaucoup, beaucoup à l'étranger. J'ai fait beaucoup de Clémence de Titus et c'est un rôle que j'aime beaucoup, vraiment.
Vous l'avez même enregistré,
oui,
en 2006 sous la direction de Pinkas Steinberg aux côtés de Veselina Kasarova. On en écoute un extrait, le premier air de Se piacer mi vuoi. Vous êtes accompagné par l'orchestre de la radio de Munich. écoutions un extrait de la Clémence de Titus de Mozart. Véronique Gens interprétait Vitellia sous le label RCA, un disque difficile à trouver en France. 2006, c'est aussi l'année de la sortie de Tragédienne, votre retour aux sources, votre pèlerinage aux racines.
Oui.
Est-ce que ça a été immédiatement l'évidence, le sentiment d'enfiler une robe sur mesure, ou est-ce qu'il a fallu vous y remettre ?
Il a fallu s'y remettre un petit peu, bien sûr. Encore une fois, j'avais un peu abandonné ce répertoire, tout simplement parce qu'on me le demandait plus. Mais c'était, comme je vous avais dit, donc en 2006, c'était vraiment une façon pour moi de boucler la boucle et de dire « Ok, maintenant cette musique, j'arrête, j'ai beaucoup aimé, je suis tombée dedans quand j'étais petite, tout est très évident pour moi dans cette musique, tout est simple, tout est logique, tout est voilà, mais j'ai besoin de passer à autre chose pour ma tête, pour ma voix et pour tout simplement, c'est la vie qui passe. Et pourquoi s'accrocher à quelque chose quand vous sentez que vous êtes plus bien dedans? Il faut avoir le courage tout simplement d'essayer autre chose, je crois.
On loue souvent vos qualités de diction. Bon, c'est nécessaire mais pas forcément suffisant à la déclamation, notamment la déclamation baroque. Ce sens du mot, de la phrase tragique, est-ce que c'est quelque chose pour vous d'inné ou d'acquis? Et quelle est la part de naturel qu'il faut y mettre?
Je suis française, je chante du répertoire français, et vraiment, je trouverais ça insupportable de la part d'un autre chanteur français qu'on comprenne rien de ce qu'il raconte. Ça, c'est vraiment... j'ai été à bonne école avec William Christie quand on chantait cette musique baroque française, parce que le texte était tellement important, la déclamation, vous venez d'en parler. C'était avant même de faire une note de musique, on commençait par dire le texte, par déclamer le texte. Et c'est vrai que c'était une bonne école. Et j'ai appris beaucoup, et à chaque fois que je chante une mélodie française ou que je chante quoi que ce soit en français, c'est vrai que je m'oblige à déclamer, à sentir, à entendre, à sentir dans ma gorge ce que ça donne. Bon, ensuite, on chante dessus. Bon, il y a des répertoires qui sont plus ou moins difficiles. Comme vous savez, plus ça monte, plus c'est difficile, en tout cas pour une voix de femme, d'être intelligible, tout simplement pour des raisons techniques, parce que quand on parle pas du tout au même endroit que quand on chante en haut. Mais je pense que c'est absolument indispensable quand on chante quelque chose en français. En tant que français, c'est la moindre des choses qu'on se fasse comprendre. Ça me paraît évident, exactement comme un Italien qui chante Mozart. Je pense que ça lui viendrait même pas à l'esprit qu'on comprenne pas ce qu'il raconte.
Sur mon lecteur MP3 d'Île déserte,
oui.
J'emporterai à coup sûr votre interprétation de Tristes après, pas le flambeau. Extrait de Castor et Pollux, c'est non pas Phébé, mais Télaïr, où votre voix justement se part, en tout cas pour moi, de cette clarté funèbre et se fait même astre, lugubre.
Oh, merci beaucoup.
Vous êtes accompagné par les talents lyriques. C'était un extrait du premier volume de Tragédienne, paru chez Virgin Classics, qui nous amène tout naturellement à évoquer le deuxième, qui vient de sortir, et où vous tenez les promesses du premier, avec Gluck, tout en les prolongeant. Alors justement, quand, comment, pourquoi, par qui peut-être est née l'idée de ce numéro 2 ?
Écoutez, c'était vraiment une surprise pour tout le monde. Je dois dire que ce numéro 1 marche aussi bien. Et c'est devenu tout naturellement. C'est Alain Lanceron, le directeur de Virgin Classics, qui m'a dit « Mais pourquoi on ne ferait pas un deuxième volume ?» J'avoue que ça ne m'avait pas du tout traversé l'esprit et que je ne m'attendais pas du tout à ça. Mais avec Christophe, on a dit « Et pourquoi pas ?» Effectivement, il y a un répertoire immense, énorme, il y a beaucoup de choses qui n'ont jamais été faites ou que les gens connaissent très peu. Donc pourquoi pas ? Alors toujours avec la même idée dans la tête, Christophe, lui, des choses nouvelles, des choses complètement inédites parce qu'il aime beaucoup ça et il pense que c'est, je pense qu'il a raison, c'est très important de faire découvrir tout ce répertoire. Et moi avec des choses pour me rassurer, pour rassurer les gens qui regardent la pochette du disque, avec des choses plus connues, et pourquoi pas aller jusqu'à Berlioz. C'est Christophe qui a proposé Berlioz en disant « Mais pourquoi on ne se lâcherait pas, on irait jusqu'à Berlioz ?» Je dis « Mais est-ce que tu es sûr qu'on peut faire ça avec ton orchestre ?» Il a dit « Mais évidemment, ils seront ravis, ça leur fera du bien. » Et nous voilà partis à chercher quelque chose dans Berlioz. C'était évident que c'était dans les Troyens. Mais j'avoue que chanter Berlioz avec les talents lyriques, je ne pensais pas que c'était possible. Voilà, on l'a fait. Et à mon avis, c'est un des morceaux les plus réussis du disque, c'est vraiment une couleur incroyable et un confort incroyable avec Christophe, avec moi à côté. Là, je dois dire que je dois beaucoup, beaucoup à Christophe, mais pour le premier volume aussi, il a une énergie, il a une passion, il a une foi dans cette musique qui m'a beaucoup portée, beaucoup aidée. Et je me remets complètement entre ses mains et j'ai qu'à écouter ce qu'il me raconte. Et voilà, et ça marche. Et il a raison souvent. Il était un très bon critique aussi en ce qui concerne, vous parliez tout à l'heure de l'intelligibilité. Dès qu'on ne comprenait pas, il me disait « Ah non, non, là, j'ai rien compris, on recommence, tant pis. Ça sera au détriment d'un beau son rond, mais il faut qu'on comprenne ce que tu racontes. » Et il a raison, c'est vrai. C'était pas toujours agréable pour moi, pas toujours confortable, mais indispensable. Donc j'allais les yeux fermés dans sa direction et je lui dois vraiment beaucoup, beaucoup pour ce disque, vraiment.
Alors c'est vrai, vous l'avez dit, qu'à part Gluck et Berlioz, peut-être le premier et la dernière plage du disque, il y a beaucoup de raretés.
Oui.
Et notamment, ça permet d'illustrer un peu la querelle entre les gluckistes et les piccinistes. Mais à écouter ces airs, on se dit qu'il n'y avait pas de quoi en faire tout un plat, finalement. Peut-être que Gluck est un peu plus monumental, les Italiens, Sacchini et Piccini, un peu plus mélodiques. Mais bon, après tout, je ne sais pas, à le chanter, comment est-ce que vous l'avez perçu ? Est-ce qu'il y a une réelle différence ?
Non, c'était comme si c'était l'un était écrit par l'autre. Enfin, non, c'était... Gluck a quand même quelque chose qu'on reconnaît tout de suite, quoi. Effectivement, ce côté monumental, ce côté comme ça qui tombe, c'est... Puis en plus, comme vous avez dit tout à l'heure aussi, c'est vrai que cette année, je chante beaucoup de Gluck et donc j'écoute beaucoup de Gluck et je baigne dans Gluck toute la journée. Il a quelque chose d'austère, de carré, de lourd, mais on le reconnaît tout de suite. Je trouve vraiment, on l'entend tout de suite, qu'on n'est pas chez Piccini ou Gretry. On le reconnaît, non, vous ne trouvez pas ?
Si, on le reconnaît, mais bon, après on se dit de là à faire une telle querelle,
non,
ça paraît disproportionné, à nos oreilles
oui,
en tout cas.
Sans doute, sans doute.
Vous l'avez dit, vous allez jusqu'à Berlioz et c'est pour vous un des morceaux les plus réussis du disque. Moi je dirais qu'il y a aussi l'air de Néris dans Médée de Cherubini.
Oui.
Mais on écoute quand même l'air de Cassandre, Malheureux roi, avec Christophe Rousset, Inattendu.
Fatal gâche de ce départ.
C'était Véronique Jans en Cassandre des Troyens de Berlioz qui clôt son nouveau disque chez Virgin Classics. Ce disque a une qualité plutôt rare de nos jours. On l'a déjà évoqué, ce fait que vous chantiez beaucoup Gluck cette année, mais il est vraiment en phase avec ce que vous faites.
Tout à fait, oui.
C'est Gluck, c'est quand même trois prises de rôle, je crois, dans la même saison. Ça vous a fait peur quand on vous a proposé successivement? Est-ce que ça a été un hasard? Comment ça s'est passé?
Oui, c'est souvent comme ça que ça se fait. Voilà, on vous propose ça, oh, ça serait une bonne idée. Et puis hop, juste après, on vous propose un autre Gluck. Bon, ça fait beaucoup, mais pourquoi pas? Et puis hop, ensuite arrive Aix-en-Provence. Donc Aix-en-Provence, on ne peut pas dire non. Donc voilà, effectivement, je me retrouve avec trois grosses prises de rôle cette année. Bon, on ne passe pas de Wagner à Charpentier. Heureusement, on reste dans Gluck. C'est la seule chose qui me rassure, c'est qu'on reste un peu dans le même genre de... Oui, dans le même compositeur, donc a priori, il n'y a pas de problème pour la voix. Mais c'est vrai que c'est beaucoup de travail, tout simplement, d'emmagasiner ces trois rôles, de les chanter, de les rendre confortables. C'est beaucoup, beaucoup de travail, oui, comme vous pouvez imaginer. Mais rien en comparaison d'apprendre Eva, des maîtres chanteurs, alors qu'on n'a jamais chanté Wagner avant.
Il y a une question rituelle dans cette émission, mais comme c'est la première émission de la nouvelle saison, c'est une nouvelle question rituelle.
Bon.
Est-ce que vous avez déjà connu ce qu'on appelle l'état de grâce? Ce sentiment qu'à un moment donné, le monde vous appartient et que vous n'avez plus de limites?
Non, pas du tout. Non, je ne suis pas du tout... j'ai bien les pieds sur terre, ma tête est bien sur mes épaules. Je ne suis pas du tout du genre à décoller pour un oui, pour un non. Non, j'ai été très heureuse, effectivement. Ça arrive une fois de temps en temps, très rare. Une espèce de plénitude quand on est sur scène, qu'on chante, qu'on sent les gens qui vous écoutent, qui vous aiment. Ça fait beaucoup de bien. Mais de là à m'imaginer que tout était permis, non. Ça, non, je suis trop pragmatique pour ce genre de choses.
Quels sont les rôles qui vous ont apporté le plus de bonheur?
Il y en a beaucoup, mais vous savez, ça dépend pas seulement du rôle, ça dépend d'une ambiance, ça dépend d'une mise en scène, d'un chef, d'un orchestre, de tout simplement d'un partenaire quand vous chantez. Ça dépend de tellement de choses et ça tient à tellement rien, quoi. Il suffit qu'on soit de bonne humeur ou au contraire, on est complètement désespéré, on arrive et il se passe quelque chose, on sait même pas pourquoi. C'est difficile à expliquer, en fait, mais c'est un moment qu'on sent passer et on se dit, ouf, oui, ça vaut la peine de...
Mais c'est peut-être ça qu'on appelle l'état de grâce.
Oui, mais de là à sentir que j'étais le maître du monde, non, j'avoue que ça m'est jamais arrivé. Non.
Je vais peut-être formuler ma question autrement, même si ça peut faire des jaloux, mais s'il y avait une production qui devait rester pour vous, ce serait laquelle?
Non, c'est difficile de dire ça, parce que c'est vrai que c'est pas comme ça que ça marche. Il y a des productions que j'aime beaucoup, d'autres que j'ai pas aimé du tout, bien sûr, ça je pense que c'est normal, on peut pas aimer tout ou tout détester, sinon on fait autre chose, mais c'est vrai que Donna Elvira, c'est un rôle que je chante beaucoup, 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 partout, et je pense que c'est avec ce personnage que si ça doit arriver, c'est avec ce personnage, parce que je me sens tellement bien, je l'ai tellement chanté, je connais tout par cœur, je pense que je pourrais chanter Don Juan, je pourrais chanter tous les rôles, mais c'est aussi un confort. Tout d'un coup, on se sent vraiment confortable parce qu'on maîtrise le rôle. On sait que là, là il faut faire attention. Là, ça va, ça roule. Enfin, c'est pas comme une prise de rôle. Là, j'avoue que Alceste de Gluck, je me rends pas du tout compte où ça risque d'être. Voilà. Alors, l'état de grâce dans Alceste, on n'en parle pas encore. On verra dans quelques années. Mais bien sûr, ça arrive. Oui, c'est qu'on se sente vraiment bien et ça fait du bien.
Merci Véronique Jans d'avoir partagé cette heure avec les auditeurs de Forum Opéra et de Cobuz. On vous retrouve évidemment chez Virgin Classics dans Tragédienne 2, mais aussi dans un DVD à paraître prochainement de La Veuve Joyeuse, enregistré à Lyon, dans une mise en scène de Macha Makeyev. Vous serez les 18 et 20 septembre à Angers, puis les 22 et 23 à Nantes pour les Nuits d'été de Berlioz avec l'Orchestre National des Pays de Loire placé sous la direction de son nouveau directeur musical, John Axelrod. On vous retrouvera ensuite au Théâtre des Champs-Élysées le dimanche 4 octobre dans l'air de Beethoven A Perfido et La Scena di Berenice de Haydn, accompagné par le Balthasar Neumann Ensemble de Thomas Engelbrock. Et puis un peu plus tard, pour ce qui est de Paris, vous ferez votre rentrée scénique au Théâtre des Champs-Élysées, toujours dans la Cadisto de Cavalli, et en juin, dans Don Giovanni de Mozart. Et puisque notre producteur Camille de Rijck est belge, je ne manque pas de signaler que vous serez dans Iphigénie en Aulide, dans un diptyque d'ailleurs dirigé par Christophe Rousset et mis en scène par Pierre Audi à la Monnaie, c'est en décembre, je crois.
C'est ça.
Il me reste à remercier Guillaume Collet qui enregistrait exceptionnellement ce numéro de rentrée qui s'achève avec un nouvel extrait de Tragédienne 2, l'air d'Hermione, si fidèle au nœud qui l'engage, extrait d'Andromaque de Grétry, une tragédie lyrique d'un auteur qu'on connaît mieux et pourtant si peu pour ses opéras comiques, et que l'on pourra découvrir cet Andromaque dans son intégralité au Théâtre des Champs-Élysées sous la direction d'Hervé Niquet le 18 octobre. Merci de nous être fidèles et à bientôt.
C'est le seul espoir qui me reste, ma rivale l'emporte, et je n'en puis douter, mais mon cœur que l'espoir cherche encore à tout des Grecs et du reste, au reste, adieu, quel triomphe pour lui. Il verra la fière Hermione qui déteigna ses feux, que Pyrrhus abandonne, il verra des malheurs galeries en lui. Chassons, chassons de ma mémoire ce qui me fut si cher et qui m'a peur.
Faut-il les miracles?